Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, notre 11e saison. Bonjour, je salue les auditeurs, puisque nous nous retrouvons pour une 11e année. Et pour entamer cette nouvelle année, j'ai le plaisir d'avoir le sous-préfet de Narbonne, Rémi Récio. Bonjour, monsieur le sous-préfet.
Bonjour, bonjour à vous et à vos auditrices et auditeurs.
Alors, une petite la palissade, je dirais. Un sous-préfet, un préfet, tout le monde sait ce que c'est. Et puis on s'aperçoit, quand on interroge les gens, que finalement, ils savent pas tellement à quoi ça sert, quel est son rôle. Donc, le but de cette émission va être, comme les radio-barques habituelles, d'essayer d'expliquer au mieux pour les auditeurs ce que c'est qu'un sous-préfet. Alors, peut-être un petit point d'histoire d'abord, monsieur Récio, sur la création dans l'histoire, Révolution française, la nouvelle répartition territoriale avec les départements. Un petit mot d'histoire.
Oui, d'abord, je suis heureux et vous voyez que nous respectons en ça ce que nous allons nous dire sur la répartition territoriale du département, de succéder au préfet Pouget qui a inauguré cette session avec vous. Préfet, vous avez raison de dire, on sait ce que c'est un sous-préfet. Non, en fait, on sait qui c'est. Oui. C'est-à-dire, on repère le personnage, on repère l'homme ou la femme chargée de la politique gouvernementale sur un territoire. Par contre, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, on le sait un peu moins. Et c'est en grande partie pour ça que je vous remercie de votre invitation. Je succède au préfet Pouget. Dans l'architecture normale d'un département issu de la construction napoléonienne et post-révolutionnaire, avec un État présent dans le territoire à travers, d'abord, son échelon centrale d'administration territoriale qui est le département, avec, vous le savez, cette vieille règle qui voulait qu'une préfecture soit une journée de cheval de quelques points qu'on se trouve du département. Donc Carcassonne comme chef-lieu de cette représentation de l'État, avec sa préfecture et son préfet dans l'hôtel préfectoral. Il est flanqué de deux sous-préfets, une secrétaire générale qui est aussi la sous-préfète de l'arrondissement de Carcassonne, et un directeur ou une directrice de cabinet qui s'occupe de la sécurité et des missions relevant du cabinet. Puis, donc, trois arrondissements. L'arrondissement chef-lieu Carcassonne, dont je viens de parler. L'arrondissement de Limoux, qui couvre la partie sud et montagneuse de notre département. Et puis, l'arrondissement dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, qui est celui de Narbonne, qui couvre une grande partie du territoire, la partie est, et notamment tout le front de mer qui va du presque Barcarès avec Port-le-Cat jusqu'à à l'embouchure de l'Aude et au Chichoulet.
Le littoral audois.
Exactement.
Oui, oui. Ouais. Alors un premier point, monsieur Récio, peut-être à préciser, on sait qu'il y a un préfet, mais apparemment il y a aussi un sous-préfet de Carcassonne.
Et oui, c'est ce que je vous disais, le sous-préfet de l'arrondissement de Carcassonne, qui a les missions que j'occupe à Narbonne, c'est la secrétaire générale de la préfecture.
Voilà. Or,
outre les fonctions support du département et du corps préfectoral pour le département, assume les fonctions de sous-préfet d'arrondissement.
Voilà. Or, pour le commun des mortels, on pensait que c'était le préfet lui-même qui s'occupait de Carcassonne.
Mais les sous-préfets, comme leur nom l'indique, travaillent sous l'autorité du préfet.
Oui,
donc
bien
le préfet
sûr.
Est en fait celui qui fait tout sur les trois arrondissements et sur la mission du directeur de cabinet, mais il le fait en fait en se reposant sur le travail préalable que font ces quatre sous-préfets pour le département de l'Aude. Le corps préfectoral, c'est quatre sous-préfets, un préfet.
Oui, voilà, mais c'était bien de le préciser, parce que je suis sûr que des gens ignoraient un petit peu cette subtilité. Alors donc, au point de vue territorial, l'arrondissement, alors, traditionnellement, c'est un arrondissement, on est bien d'accord ?
Absolument.
Hein, c'est
absolument. Celui de Narbonne est particulièrement important à bien des endroits. Hein. D'abord, en termes de population, puisque, j'allais dire, en temps normal, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, nous sommes autour de 180-185 000 habitants, ce qui est beaucoup dans le département. Nous avons la ville la plus peuplée de l'Aude, qui est Narbonne, mais je dis en temps normal, parce que passé le mois de mai et jusqu'à la fin du mois de septembre, il n'aura échappé à personne que des populations venant de la France entière et de l'Europe entière viennent sur nos côtes de la côte du Midi. Et donc, on estime à x3 ou x4 l'accroissement de la population. Donc, vous voyez, c'est un arrondissement riche en population, riche en activité, riche en intercommunalité, puisque l'arrondissement de Narbonne dépend de trois intercommunalités. Ça aussi, les gens du Narbonnais l'ignorent, mais il y a bien sûr l'agglo du Grand Narbonne, il y a la communauté de communes du Lézignanais, Pyrénées. Mais il y a aussi Corbière-Salanque Méditerranée, dont le siège est dans les Pyrénées-Orientales, mais qui gère une grosse dizaine, une petite douzaine de communes, notamment celle des Hautes-Corbières, dont j'ai la charge. Donc, trois intercommunalités, deux parcs naturels régionaux, ce qui est aussi une grande richesse. Hein. Corbière-Fenouillède et puis la Narbonnaise, dont on va fêter d'ailleurs bientôt le 20e anniversaire, bien, ils dépendent de mon administration, le conseil départemental, bien sûr, le conseil régional. Voilà pour l'architecture territoriale, mais vous voyez que l'arrondissement de Narbonne, démographiquement, géographiquement, économiquement, socialement, culturellement, pèse un poids singulier dans le département de l'Aude.
Oui, voilà. Et puis vous soulignez également, monsieur Ressio, justement, les phénomènes. Alors, Narbonne se trouve pas seulement sur les couloirs migratoires des oiseaux, mais également, on le sait, en été, il y a des grosses migrations.
Vous avez raison, mais les Romains ne s'étaient pas trompés. et si on fait, si on regarde la Via Domitia qui passe devant l'hôtel de ville de Narbonne et qu'on regarde la Via Aquitania, peu ou prou, à quelques centaines de mètres près, vous superposez la 9 et la 61.
Donc les grands
couloirs de migration aussi de la population, mais aussi des échanges de richesses et des échanges finalement de mouvements de population et des échanges culturels, ils sont depuis la Grèce et depuis Rome, à l'époque où Narbo Marsus régnait un peu sur la Gaule romaine, ils sont l'ADN profond du territoire narbonnais.
Oui, finalement, il y a des choses, c'est intéressant de le souligner, qui en des siècles, voire des millénaires, ont peu bougé.
Bien sûr. Même si, et je le dis souvent, le sous-préfet de Narbonne, c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Narbonne et pas de la ville de Narbonne, qui occupe une grande partie des activités et du temps disponible du sous-préfet. Mais l'arrondissement de Narbonne, c'est 109 communes. Hein. Donc c'est, on va des Hautes-Corbières avec la frontière catalane, la frontière presque ariégeoise, même si Limoux en prend une grande partie, et de l'autre côté, la frontière héroltaise. Donc des plaines du Minervois, de l'embouchure de l'Aude jusqu'aux Hautes-Corbières, à Quéribus et à Père-Pertuse, et jusqu'à Moux, dans l'intérieur du territoire, vous voyez que c'est un territoire très vaste et très divers, puisque c'est un peu mer et montagne, comme disent nos amis catalans. Hein. C'est à la fois de la grande ruralité et la plus grande ville du département, c'est à la fois du petit artisanat des très grosses entreprises, hein. C'est de la plaine et de la haute montagne, et c'est la mer. Donc c'est tout ça réuni qui fait un arrondissement à la fois passionnant à administrer et à gérer, mais en même temps une source d'interventions qui sont très diversifiées.
Oui, et puis très vaste, vous le soulignez à l'instant, monsieur Ressio. Alors justement, sur ce grand territoire, qui faites-vous en essayant d'être aussi concret que possible? Parce que l'autorité de l'État, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on le ressent vraiment?
D'abord, ce que j'y fais moi, c'est le résultat surtout de ce que l'État y fait collectivement.
Oui,
parce
bien entendu.
Qu'il y a un sous-préfet, il y a une sous-préfecture, c'est une vingtaine d'agents pour Narbonne, et c'est les services de l'État départementaux déclinés ensuite dans l'arrondissement qui sont à l'œuvre. Moi, je suis un peu le sous-chef d'orchestre, le chef d'orchestre étant le préfet. Je fais tout ça sous l'autorité du préfet. Mais si on se résume, et pour que vos auditeurs et vos auditrices se fassent une image un peu facile à retenir, je dirais que c'est un personnage, le sous-préfet, qui marche sur deux jambes. La première jambe, c'est la sécurité. Et la deuxième jambe, c'est l'accompagnement territorial. C'est ce que j'appelle aussi l'ingénierie de territoire. Sur la sécurité, c'est une jambe qui repose sur deux muscles. Il y a le muscle du temps normal et puis il y a le muscle de la crise. Le temps normal, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la sécurisation du quotidien, des personnes et des biens, la prévention de la délinquance, l'animation d'outils transversaux, comme des choses dont on entend parfois parler, les conseils communaux de prévention de la délinquance, les groupements locaux de traitement de la délinquance. Mais c'est également aussi, les gens l'oublient parfois, la politique de la ville. Hein, sur l'arrondissement de Narbonne, il y a 4 quartiers politiques de la ville, avec 3 à Narbonne, 1 à Lézignan. C'est une cité éducative à Lézignan, mais ce sont aussi les missions de protection du quotidien. Je pense par exemple à l'organisation, à la sécurisation des manifestations. droit constitutionnellement garanti, droit auquel s'attache un sous-préfet dans la partie organisation pour que les actions de revendication politique ou collective, elles puissent avoir lieu dans le strict respect, bien sûr, de la Constitution, c'est-à-dire dans la libre expression de l'opinion, dans la possibilité qu'on a dans ce pays de contester des mesures prises par le gouvernement, avec cette singularité quand même, qui est que le représentant du gouvernement est parfois là pour s'occuper de la gestion des manifestants qui vont lutter contre ce que lui-même est amené à faire sur son territoire. Mais dans votre studio, il y a cette phrase de Voltaire qui on peut ne pas partager des idées, mais tout faire pour qu'on puisse les exprimer. On est là dans l'exercice singulier de la liberté publique à la française, et donc c'est mon rôle que d'organiser ces manifestations, de les suivre, de les rendre possibles, de les sécuriser pour ceux qui manifestent, mais aussi pour ceux qui ne manifestent pas et qu'il n'y ait pas de débordement. Il y a aussi
À propos, justement, il est possible, ça arrive, c'est rare, mais que des manifestations soient interdites. Oui. Alors, qui prend cette décision ?
C'est l'autorité préfectorale, au vu, bien sûr, des contraintes du moment et des contraintes locales, en termes d'analyse très fine entre la nécessité de donner libre cours à la liberté d'expression, mais également la prise en compte soit de dangerosité particulière ou de troubles à l'ordre public. Mais il faut garder à l'esprit que l'interdiction par l'autorité préfectorale d'une manifestation, c'est epsilon dans une année. Hein.
Oui,
c'est,
oui.
Par exemple, pour vous prendre un ordre d'idée, ça fait 4 ans que j'ai l'honneur d'être le sous-préfet de Narbonne. Je n'ai jamais procédé via le préfet à l'interdiction d'une manifestation.
Oui, ça reste rarissime parce que peut être très mal perçu.
Non, c'est pas un problème de perception, c'est un problème de principe. La liberté publique, c'est le principe absolu de notre état de droit. Et donc, ce qu'on attend d'un sous-préfet et d'un préfet, c'est précisément d'être le garant de l'application uniforme sur le territoire français du droit. Donc, c'est un principe intangible auquel on ne déroge que à de très très rares exceptions. Pour aller au-delà et rester sur la mission de sécurisation, il y a bien sûr tout ce qui a trait aussi à la prévention de la délinquance. Je pense à la visio, aux caméras de vidéoprotection que nous avons en Narbonne et dans d'autres points du territoire. Il y a bien sûr, et c'est les auditrices et les auditeurs verront tout de suite à quoi je fais allusion, les manifestations sportives aussi, dans la dimension de réception du public. Il y a les établissements qui reçoivent du public, les hôtels, les restaurants, les cafés, avec des règles de sécurité pour le bien-être des personnes et puis pour la protection des consommateurs. Les manifestations sportives, on y reviendra puisque nous parlerons d'exemples, mais retenez quand même ce passage de la flamme olympique dans le département, et notoirement pour ce qui me concerne dans l'arrondissement.
Ça, c'est marquant dans la vie d'un préfet ou d'un sous-préfet.
Marquant dans la vie d'un sous-préfet, mais surtout d'un citoyen. Moi, je suis aussi un Narbonnais parmi les Narbonnais, et je me souviendrai toute ma vie de ces 15 000 personnes amassées sur le parcours qui partait de l'aréna jusqu'à la place de l'hôtel de ville, cette joie collective, ce bonheur partagé. Mais ce bonheur partagé, il n'est que la phase visible d'un gros travail de préparation en termes de sécurisation.
Voilà, c'est là où on retrouve évidemment le rôle du sous-préfet.
Absolument. Il y a aussi je termine sur les manifestations culturelles aussi. Barque en scène avec 100 000 personnes à Narbonne pendant 3 soirées successives, c'est un travail aussi qui incombe au sous-préfet. La sécurité routière est aussi dans la partie préventive. On y reviendra si vous le souhaitez. J'ai des exemples très concrets à vous donner, mais dans la partie répressive à travers, bien sûr, l'action judiciaire, mais la suspension du permis de conduire.
Et la police. Notamment.
Voilà, la suspension du permis de conduire, c'est le sous-préfet qui la signe au fil de l'eau dans la semaine. Voilà, l'hospitalisation d'office des personnes qui ne répondent plus de leur faculté psychique, c'est le sous-préfet. La laïcité, le suivi des conseils municipaux des enfants, les feux de forêt, les visites officielles. Et là, je ne vous ai parlé que du temps de paix.
Oui, voilà. On marque une première pause, monsieur Essieu, et on se retrouve dans une seconde partie. Alors, je rappelle que notre invité, pour recommencer cette série Radio Barque, 11e du chiffre, est Rémi Essieu, le sous-préfet de Narbonne. On se retrouve pour une seconde partie.